Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Daniel Cohen, Richesse du monde, pauvreté des nations. Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, professeur de sciences économiques, Daniel Cohen est un spécialiste de la dette souveraine. Dans cet ouvrage, Richesse du monde, pauvreté des nations, Daniel Cohen analyse les causes économiques et politiques à l'origine des inégalités et cherche à proposer des solutions pour les réduire. Ce livre lui a valu d'être désigné économiste de l'année par le magazine Le Nouvel Économiste. Extrait du chapitre 5, Les appariements sélectifs, l'école. Si la troisième révolution industrielle est le processus central qui est à l'origine de ce nouvel âge des inégalités, elle n'est pas seule en cause. Tout comme l'usine fordiste, des lieux tels que l'école, la famille et même la patrie entrent à leur tour en crise. Le brassage social dont ces institutions ont parfois porté la promesse laisse place aujourd'hui à un nouvel âge de ségrégation dont la forme est très proche de celle observée dans le domaine de la production. Il semble en effet que les lieux habituels de socialisation deviennent à leur tour le siège d'un processus d'appariement sélectif, c'est-à-dire le lieu d'association qui se font sélectivement entre personnes homogènes et non plus universellement. L'école occupe dans l'imaginaire des Français notamment une place centrale dans la redistribution des chances. Si la crise du travail était due à la mondialisation, la scolarisation de masse serait bien le remède idéal. Rappelons en effet la logique à l'œuvre. Le commerce avec les pays pauvres détruit des emplois à faible qualification et crée des emplois à forte qualification. À population inchangée, il y a donc brutalement trop de travailleurs non qualifiés et pas assez de travailleurs qualifiés. Le remède à ce déséquilibre, bien plus efficace que le protectionnisme, serait donc simplement d'accroître le niveau de la scolarisation de la population. En augmentant la population qualifiée en nombre suffisant, on peut en effet résorber par un jeu de vases communicants l'excès de travailleurs non qualifiés et le déficit d'ouvriers qualifiés. Il faut toutefois modérer, hélas, l'ardeur de ceux qui pourraient voir dans la scolarisation le remède universel à la lutte contre les inégalités. Certains économistes n'hésitent pas en effet à attribuer l'origine de ce nouvel âge des inégalités à la scolarisation de masse elle-même. Le raisonnement apparaîtra paradoxal, mais il rejoint en fait nombre d'intuitions entendues à propos de la désaffection pour le travail non qualifié. Développons brièvement l'argument. Dans une société où il y a peu de travailleurs qualifiés et beaucoup de travailleurs non qualifiés, le meilleur usage des premiers est d'occuper des tâches auxquelles seront associés, subordonnés, les seconds. C'est au fond le cœur de l'usine fordiste que de créer des lieux de production fortement hiérarchisés où des ingénieurs hautement qualifiés font fonctionner des usines qui emploient des travailleurs sans qualification. La qualification croissante de la population change toutefois la logique de ces appariements. Lorsque le nombre d'ouvriers qualifiés disponibles s'accroît, une autre logique peut en effet se mettre en place. Parce qu'ils forment désormais une communauté plus dense, les travailleurs qualifiés sont incités à se regrouper entre eux au sein d'unités de production beaucoup plus homogènes selon des modalités que nous avons déjà commentées. D'un monde où l'usine jouait un rôle de brassage social et redistribuait en son propre sein les richesses produites, la société passe sous l'effet de la scolarisation à un mode de production inégalitaire où les diplômes restent entre eux, sous-traitant à d'autres les tâches viles qu'ils ne veulent pas faire. Au lieu d'être le reflet de la seule révolution informatique, cette nouvelle logique d'appariement sélectif serait donc en fait la réponse logique de la société au changement de la composition de sa force de travail. Les résultats auxquels on est ainsi conduit vont fortement à rebours des intuitions auxquelles mènent les théories naïves de la mondialisation. Pour celle-ci, il suffit de scolariser en partie la population pour compenser l'effet, lui aussi partiel, des destructions d'emplois. Grâce à la scolarisation des autres, un ouvrier non qualifié profitera en effet toujours du désencombrement du marché où il cherche un emploi. Dans la théorie naïve, l'ouvrier qui reste non qualifié est aidé par la requalification de son voisin, même si lui-même n'en profite pas directement. Dans les nouvelles théories que nous suggérons ici, c'est tout le contraire qui se produit. L'ouvrier, qui ne participe pas à l'effort de requalification du reste de la société, est abandonné par elle. Fixé ainsi comme objectif de donner le bac à 80% de la population, est excellent pour tout le monde, y compris les 20% restants du point de vue des théories classiques de la mondialisation. C'est désastreux pour ceux qui restent sans éducation, si l'on en croit la théorie des appariements sélectifs. Le raisonnement est très simple. Dans un monde où 80% de la population sait lire, rester un alphabète devient une tare rédhibitoire pour les 20% qui ne le savent pas. Si au lieu d'alphabétisation, on entend aujourd'hui parler l'anglais ou comprendre l'informatique, on est au cœur de la question moderne de l'exclusion. L'argument ne signifie évidemment pas que la marche vers la scolarisation pour tous doive être ralentie. Il donne à comprendre pourquoi, dans l'intérim, elle menace d'accroître les facteurs d'exclusion. Il est possible, par ailleurs, d'amplifier la portée de l'argument en notant qu'au sein même du système éducatif, des stratégies d'appariement sélectif sont déjà manifestement à l'œuvre. L'école de la Troisième République, où des élèves de milieux hétérogènes étaient admis dans la même classe, peut être interprétée comme l'organisation logique d'un système scolaire où les enseignants restent rares. À l'heure où une masse critique d'élèves et d'enseignants est atteinte, la stratégie éducative choisie par les parents pour leurs enfants devient à son tour plus sélective. Des communautés plus denses peuvent se former, qui segmentent l'éducation d'une manière plus exclusive qu'aux premières heures de l'école publique. Les bons lycées deviennent meilleurs parce qu'ils disposent d'un vivier plus important d'élèves et de professeurs. Les lycées moyens suivent, et ainsi de suite. Comme le note Agnès Van Zanten, ces stratégies de choix sont surtout le fait de familles de classe moyenne, notamment des classes moyennes intellectuelles qui, sans posséder nécessairement les ressources financières nécessaires pour habiter à proximité des meilleurs établissements, possèdent les savoirs, les savoir-faire, le temps et les réseaux sociaux nécessaires à décoder et à manipuler des systèmes complexes de sélection et de classement. Il n'y a pas d'ailleurs que les parents qui conspirent à ces stratégies sélectives. Le milieu des enseignants y contribue aussi, parfois inconsciemment. Agnès Van Zanten note ainsi que l'un des moyens privilégiés de faire face aux difficultés d'enseignement et aux problèmes de maintien de l'ordre créés par l'augmentation des effectifs et par l'accroissement de l'hétérogénéité interne a été, pour les chefs d'établissement et les enseignants, de répartir les élèves dans des groupes relativement homogènes, en fonction de dispositifs pédagogiques comme les classes de niveau ou d'options. Et elle ajoute, en conclusion, face à la menace implicite ou explicite de défection des parents des milieux plus favorisés vers d'autres établissements, le personnel des collèges et des lycées, voire de certaines écoles primaires implantées dans des quartiers populaires, est de plus en plus tenté de reconstituer des hiérarchies subtiles entre les classes. Ces hiérarchies se construisent en fonction d'options qui vont depuis les prestigieuses classes européennes jusqu'aux classes musique ou théâtre. Tout est dit. À l'image de l'usine fordiste, l'école publique subit l'effet paradoxal de la scolarisation de masse, elle devient plus segmentée est donc à son tour le vecteur de nouvelles inégalités.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.